Bonsoir, je suis Philippe Fabry, il est 22h18, nous sommes le 7 octobre 2025. Je suis désolé pour les nouveaux problèmes de technique. C'est purement mon problème de réseau que j'ai en fait en ce moment. Alors pour être très franc, il faut savoir que quand on a commencé à s'installer avec ce stage-là finalement, avec Léo, je suis passé sur le PC fixe parce qu'il est branché directement sur le routeur et donc normalement c'est là que le réseau était meilleur. Parce qu'au début, là, pendant la première année, les émissions on les avait faites sur mon PC portable. Et là, allez savoir pourquoi, le PC portable qui est en Wi-Fi a un super débit alors que le fixe n'en a plus. Voilà, simplement le problème c'est qu'on ne peut pas le corriger en cours de route. Une fois qu'on a lancé, on a lancé. Si ça plante, il faut refaire tout le salon et tout. Et je remercie mon cher ami à la technique qui s'en est occupé en vitesse. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, je suis pas habitué. J'ai pas, je suis sur l'autre PC, alors j'ai les réglages d'enregistrement du bulletin, mais je suis pas sûr que ce soit les mêmes que ceux pour l'audio. Ok, très bien. Bon, donc on est là. Bon, de toute façon, pas de petit texte d'intro ce soir. C'est vraiment du live spécial, spécial à l'arrache. Où on va faire, bah, finalement, on va faire un petit peu comme font les. Comme font beaucoup de youtubeurs, ou même ça sera c'est quasi Twitch, c'est-à-dire que ça va surtout être pour donner quelques actualités que j'ai vues aujourd'hui et puis en discuter ensemble parce que tout simplement, quand le spectacle est beau, on a envie d'y mettre les mains. Et comme il se passe beaucoup, beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui déjà. Alors, donc, je pense que de toute façon, il y aura une émission de demain, a priori, aussi, qui était prévue, une fois qu'on sera arrivé au bout des 48 heures données par Macron à Le Cornu. Mais le fait est que la situation n'attend pas Macron, et c'est ça un peu la surprise de la journée. La situation accélère. Et en l'occurrence, la situation, elle a commencé à déraper un petit peu ce matin, en fait. Ce matin, avec Édouard Philippe, donc l'ancien Premier ministre qu'on ne présente plus, qui a appelé à la démission d'Emmanuel Macron. Alors semble-t-il, c'est l'information qui est sortie au cours de la journée, que c'est parce que d'après les sondages, les derniers sondages qu'il a eus, il sait que sa réélection comme maire du Havre est compromise, et que si sa réélection comme maire du Havre est compromise, son avenir présidentiel risque d'être compromis, parce que si d'ici 2027, il était d'abord réélu triomphalement maire du Havre, ensuite c'était un tremplin, si se vautre comme maire du Havre, c'est un gouffre, hein, ou c'est un dos d'âne, enfin ce que vous voulez, un croque-en-jambe, mais qui risque de sacrifier son avenir. Et donc du coup il s'est lancé. Et comme il a déjà dit qu'il était candidat il y a presque un an, quand Barnier avait été censuré et que la première fois la question de la démission d'Emmanuel Macron avait été évoquée, eh bien il a décidé de lancer ça. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est à quel point le fait que ce type, qui a un côté institutionnel, parce que c'est de mémoire et en date, c'est le Premier ministre qui a duré le plus longtemps. Le dernier Premier ministre d'une certaine envergure, on va dire, pour la relative personnalité qu'il représentait en face d'Emmanuel Macron, parce qu'après ça a été ça menuisant, avec de plus en plus des larbins, Castex, Borne, Attal, et puis ensuite bien sûr, c'est la catastrophe de la dissolution. Donc, ça, et Marine Le Pen elle-même, qui a dit ça passe crème quand c'est lui qui le dit et pas moi. Tout d'un coup, tout le monde a commencé à parler. Et alors d'abord, ceux qui ont suivi, naturellement, ce sont tous les membres. Et donc, de leur part, c'est pas surprenant. Mais comme c'était des macronistes à base tous, ça fait un choc. Tous les membres de son parti à lui, Horizon, qui sont souvent d'anciens macronistes, qui ensuite avaient fait cette scission au sein d'Horizon quand lui a lancé son truc, qui était en général des anciens des Républicains, et donc, mais qui étaient donc devenus des symboles du pouvoir macronien. Et donc là, vous avez Nathalie Loiseau, vous avez Christophe Béchu, dont moi le souvenir le plus évocateur que j'avais, c'était une vidéo qu'il avait fait sur Twitter pour parler de la prime de reprise des chaussettes qu'il mettait en place. Donc glorieux, donc c'est vraiment le coup de pied de l'âne de la part de mecs comme ça qui viennent expliquer que Macron doit démissionner. Dans la même journée, vous avez Attal. Alors Attal n'a pas appelé à démissionner, mais Attal a bien poignardé dans le dos aussi Macron en disant qu'il ne se comprenait plus et qu'il ne comprenait plus les choix du président depuis la dissolution, on sait que leur rupture, elle date de là, puisque lui ne la voulait pas, que ça a mis fin à sa carrière de Premier ministre. Et donc, il y a vraiment eu un emballement avec tout un tas de gens qui sont sortis, des anciens de la politique comme Hervé Morin, qui était une figure du centre. Il y a de droite, il y a Estrosi aussi qui est venu appeler à cette émission. Donc tout un tas de gens qui ne sont ni d'un extrême ni de l'autre, c'est ça qui est très très intéressant, qui sont venus parler de cette démission. Et cela, alors que dans la journée, l'info est sortie via le Canard enchaîné, il semble beaucoup plus qu'Emmanuel Macron s'orienter vers une dissolution plutôt qu'une démission, ce qui paraît cohérent avec le personnage. Il est prêt à jeter n'importe qui sous les roues du camion, plutôt que ce soit lui qui saute. Mais maintenant, on commence à voir aussi des personnalités relativement indépendante, mais donc j'ai pas vu quelle était son identité, donc c'est à la cool hein, ce soir, donc j'essaie de le chercher en même temps que je vous en parle. Si quelqu'un a la réponse, qu'il la donne directement dans le chat ou qu'il se taise à jamais. C'est sorti dans l'Express, un article, un ex-économiste du FMI prévient Macron qu'il doit démissionner, notamment parce que de plus en plus on parle, et ce serait également le cas d'ailleurs, je sais plus qui c'est qui en a parlé dans le canal aujourd'hui, dans le canal Telegram de la chaîne, il était question d'une attaque de la dette française sur les marchés qui pourrait arriver si Emmanuel Macron nommait un gouvernement de gauche, ce qu'il a semble-t-il sérieusement envisagé dans la journée, mais qui pourrait peut-être aussi arriver tout simplement si Emmanuel Macron se maintenait. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est que voilà, il y a une espèce de discours institutionnel qui apparaît maintenant, qui émerge, qui n'est plus un discours de marche, qui n'est plus un discours des excités ou des considérés comme excités des extrêmes, mais un discours de centristes qui viennent maintenant dire « Voilà, il faut que le président s'en aille. » Et qui s'appuient sans doute, ou en tout cas qui ont été convaincus à aller dans ce sens-là, sur non seulement des sondages qui désormais sont de manière extrêmement majoritaire, plus de 70% favorables à la démission du président, mais aussi parce qu'ils sont forcés de constater que depuis 2 ans maintenant, ce discours de démission et surtout les sondages sur la démission ne font que progresser. C'est-à-dire qu'ils sentent bien qu'il y a un mouvement de fond et que de plus en plus, en fait, et c'est ça qui est important, c'est là que le bon se fait finalement, de plus en plus, il faut choisir son camp. Et ça risque d'être très handicapant dans la vie politique d'après si vous êtes dans le camp de ceux qui n'ont jamais appelé Macron à démissionner. Et c'est à partir du moment où vous arrivez à ce niveau-là qu'il peut y avoir des difficultés. Je vois qu'il y a encore des gens qui disent que le son est faible. Est-ce que vous êtes nombreux à le penser? Parce que je peux essayer d'améliorer la sortie, sauf que je ne sais même pas où c'est. Parce que je peux l'améliorer là, je l'ai mis, mais je l'ai foutu à fond, l'entrée, donc ça va, 5 sur 5, bon, montez le son chez vous, alors du coup, hein, si vous entendez pas bien. Peut-être quand il y a des pubs qui se déclenchent, ça vous fait mal, mais je peux rien, ça vous maintiendra éveillé. Bon, vous êtes majoritaire à penser que le son est bon, donc je maintiens. Donc voilà ce que je trouve de véritablement frappant dans cette journée, et très honnêtement, encore plus ce soir. Parce que véritablement, je disais, on a la mise en place d'un discours institutionnel tendant à la démission. Demain matin, il y a la motion de destitution déposée par LFI qui doit être examinée au bureau de l'Assemblée nationale. Le RN a semble-t-il envisagé de voter pour. Et apparemment, finalement, ils se déballonnent, ils veulent juste s'abstenir, ce qui, à mon avis, est une erreur de leur part, un mauvais calcul politique. Pourquoi mauvais calcul politique? Parce que, toujours pareil, il est vraisemblable que, de toute façon, même si Emmanuel Macron démissionne, dans les semaines qui viennent, ou les mois qui viennent, il y aura dissolution. Le jour de la dissolution, avoir été parmi les partis qui ont fait tomber Emmanuel Macron, je pense que ça sera un élément de prestige extrêmement important. Si vous êtes contenté de regarder passer la caravane à ce moment-là, je pense que politiquement, ça peut être coûteux à long terme. Bon, ils sont toujours à temps de changer d'avis d'ici demain matin. Mais a priori, ils ne rejoindraient pas cela. Et d'après ce que j'ai vu, LR veut voter contre. Il y a le Rassemblement national qui essaie de relancer, mais enfin, ça, c'est pas exactement une nouveauté, qui essaie de relancer comment dire, qui essaie de relancer le. Attendez, je vois que. Ah, Marvin est gentil. Il est venu pour retenir les questions. C'est sympa, Marvin. De proposer une alliance avec LR, mais bon, c'est ce qu'ils avaient déjà fait avec Ciotti. Et Ciotti était arrivé et il était parti. Mais ça commence à fonctionner plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à être séduits par le discours. Et quand vous regardez à la télévision, vous avez de plus en plus de commentateurs même qui commencent à parler très sérieusement. J'entendais tout à l'heure, c'était Patrice Duhamel, je crois, sur France Info, à qui on posait la question « Qu'est-ce que ça donnerait si ?» Qu'est-ce que ça donne quand un chef de l'État s'en va brutalement, que ce soit après le départ de De Gaulle ou à la mort de Georges Pompidou ? Donc, ça devient un sujet de discussion. Alors, ça l'avait déjà été un peu, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop accélérer, ça l'avait déjà été un peu en décembre l'année dernière, avant la nomination de Bayrou et après la chute de Barnier, me semble-t-il, c'est là qu'on en parlait. Puis ensuite, bon, il y a eu la nomination et les choses se sont tassées. Là, le problème, c'est de savoir quelles sont les solutions qui lui restent. Le Premier ministre de gauche, peut-être que c'est ce qui décidera, mais il y a aussi cette rumeur qui est apparue dans la journée, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, qui est que, en gros, c'est le Canard Enchaîné qui a sorti ça, donc la dissolution serait déjà prévue. Je crois que cet après-midi, Macron aurait reçu Larcher et Yael Braun-Pivet, auquel cas on peut penser ça, et à ce moment-là, il y aurait une dissolution et on voterait mi-novembre, ce qui laisserait plus de temps de campagne. Est-ce que ça laisserait plus de temps de campagne que la dernière fois ? Parce que la dernière fois, il avait dissous le 9 juin, on avait voté quoi ? Début juillet, le deuxième tour c'était le 12 ou 13 juillet, donc ça va laisser un peu plus d'un mois. Là, il y aurait un mois et demi quand même, ça serait un petit peu plus long, pas beaucoup plus, mais enfin il y aurait 15 jours de plus. Mais au bout de ça, il n'est pas du tout dit que la question serait réglée encore une fois. Moi je suis persuadé que même s'il y a une dissolution avec une nouvelle majorité qui arrive, je pense que la situation d'Emmanuel Macron sera extrêmement instable. Extrêmement instable. Surtout si on imagine, je ne sais pas, par exemple, que la gauche arrive en tête. Hein. Ce n'est pas ce que tendent à annoncer les sondages, mais bon, la dernière fois, on a vu ce que ça a donné. Et puis, pareil, hein, si vous avez des attaques sur la dette. Alors, il y a la question du budget aussi, parce que Édouard Philippe a dit qu'il fallait d'abord qu'un budget soit trouvé avant de faire cette démission. David Linard, lui, il parle depuis un moment de démissionner bien en avance. Moi, je pense que s'il démissionne, ça sera quand même assez sale, assez cradingue. Moi, je reste sur mon scénario Yanukovych, c'est-à-dire du type qui attend vraiment qu'on le pousse dehors pour foutre le camp. Et là, très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il semble de plus en plus seul. Les journalistes commencent à être accédés. Il y en a beaucoup qui commencent à dire des saloperies sur Macron, comme quoi, effectivement, il y a des échos, comme quoi... Il est toxique, que c'est pour ça. Parce que, et puis de plus en plus, plus les gens vont se mettre à lui planter les couteaux dans le dos, plus les journalistes vont se sentir autorisés à le faire aussi et à déballer sur lui. Parce que c'est comme ça, une fois qu'il y a l'odeur du sang, c'est la curée. Donc il est peut-être même pas impossible qu'il prononce la dissolution et qu'il soit poussé à démissionner avant même législative, hein, allez savoir. S'il y a un climat qui monte de manière suffisamment brutale dans le pays, on ne sait jamais. Parce que surtout, en attendant, à partir du moment où vous avez un Parlement qui est démissionnaire, le pouvoir remonte un petit peu au président à ce moment-là, donc il redevient la cible exclusive pendant un mois et demi. C'est cauchemardesque, ce stade-là. Et surtout qu'en plus, les choix ou les messages qu'ils sont en train de faire passer... Il y a quand même un côté à l'ali, quoi. C'est-à-dire que apparemment, Elisabeth Borne a indiqué qu'elle serait prête à suspendre sa réforme des retraites. Simplement, quand vous commencez à lâcher comme ça, c'est comme Ceausescu qui fait son discours. Allô, allô, avec sa femme qui lui dit mais donne-leur plus, quoi. Hein. Pour essayer de les calmer. On sait où ça a mené. Donc voilà, c'est cette ambiance à laquelle, encore une fois, vous voyez, c'est tout le problème, et je maintiens que c'est très difficile d'anticiper exactement le rythme des choses, ou en tout cas le moment où ça s'emballera. Parce que, honnêtement, moi je pensais qu'il n'y aurait rien jusqu'à demain soir, que ça ne s'accélérerait pas. Et à ce moment-là, ça s'accélère. Alors qu'il y a des moments où on pense que ça va accélérer, ça n'accélère pas. Voilà. Encore une fois, on a une petite idée en lycée de ce qui doit se passer. Mais forcément, il y a toute une partie contingente qui est absolument imprévisible. Tout ce qu'on peut faire, c'est regarder et, avec horreur ou émerveillement, selon votre positionnement, découvrir au fur et à mesure comment des choses dont vous saviez qu'elles devraient se faire se font, parce que vous ignoriez comment elles se feraient. Un côté assez poétique en même temps. Alors voilà, alors j'ai envie de discuter un petit peu de ça avec vous ce soir. On va peut-être pas forcément faire une émission très très longue, mais ça me paraissait intéressant de faire un point là-dessus. Alors, nous avons quelques questions qui sortent. Je vous rappelle qu'on priorise les questions d'hommes, mais vous pouvez aussi poser des questions si vous passez, que vous découvrez la chaîne. La seule chose que je vous demande vraiment instamment, si ça vous intéresse, c'est de mettre des petits pouces, parce que c'est devenu vachement important, c'est redevenu vachement important, semble-t-il, depuis le mois d'août dans l'algo YouTube. Donc n'hésitez pas à pousser. Question de monsieur Tanguy Brion. Est-ce que l'effondrement de la 5e de la France puis de l'UE pourrait arriver avant l'extension de l'invasion russe? Ça, c'est toute la question, je peux pas répondre, c'est toute la question du timing. J'ai aucune idée parce que les Russes, s'ils sont pas véritablement au bord de l'effondrement et avoir l'impression qu'ils doivent faire tapis tout de suite, ils peuvent avoir l'impression en ce moment que le temps joue pour eux, effectivement. Et à partir du moment où vous avez l'impression que le temps joue pour vous, vous vous précipitez pas. Donc à ce moment-là, vous entendez un petit peu. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que de toute façon, les deux se produiront grosso modo, parce que ça va pas être, je veux dire, c'est pas instantané. Fondamentalement, la 5e, la France, c'est un processus, si vous voulez, qui a diverses phases de maturité. Et de toute façon, ce processus favorisera, en raison de l'instabilité qu'il crée, favorisera une extension du conflit du côté de la Russie. Dans quelle mesure exactement et comment les deux choses vont se caler, c'est pas dit. Et là aussi, encore une fois, il y a une contingence. C'est-à-dire que on peut avoir de la chance ou pas de chance dans l'ordre et le timing dans lequel ça se produit. Il y a un timing qui peut être beaucoup plus dangereux que notre. On dit bienvenue à Red Lust qui nous rejoint parmi les compagnons historionomes. Merci, n'hésitez pas effectivement à nous rejoindre pour encourager l'action de la chaîne et pour m'encourager à venir souvent en ce moment, parce que c'est ça aussi qui me motive à venir, c'est que je sais que vous serez là au rendez-vous et ça fait très plaisir. Erior Savonarola qui nous demande: est-ce que l'impérialiste revanchard est toujours un ancien petit cadre de l'ancien régime? Napoléon, petite noblesse. Staline, ancien séminariste. Poutine, ancien du KGB. Staline, ancien séminariste, et très possiblement Staline, ancien indic des services de renseignement russe aussi. Hein. Dans le parcours du jeune Staline, qui était un brigand, il y a des tolérances, des indulgences qui sont un petit peu curieuses et qui ont laissé penser à certains qu'il était peut-être en plus un indique du pouvoir. Alors, c'est pas exactement la même chose, effectivement, que d'être un cadre de la R, mais effectivement, si vous prenez Hitler, Hitler, c'était un ancien militaire aussi. Bon, lui, comme tout le monde, j'ai envie de dire, dans sa génération. Enfin, effectivement, ce sont des gens qui ont eu des petites responsabilités, puisqu'il était quand même monté caporal. Bon, c'est pas énorme, enfin, c'était déjà ça. Pendant la Première Guerre mondiale, il était médaillé. Oui, c'est souvent. Parce que souvent, ce sont des figures qui sont ambitieuses, qui font partie de la classe qui était très ambitieuse, mais qui était un petit peu bloquée par sa non-appartenance aux élites naturelles ou consanguines, si vous voulez, du régime. Et donc, c'est souvent le vivier des nouvelles élites. Donc, généralement, l'impérialiste revanchard fait partie de ça, hein, c'est pareil pour Cromwell, c'est pareil pour tous ces gens-là. Suite de la question d'Erior Savonarola, si c'est le cas, est-ce que notre futur impérialiste revanchard ne serait pas un ancien de LR? Ça peut être un ancien de LR, ça peut être quelqu'un qui est militaire ou un jeune militaire dans l'armée aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui est dans les forces de sécurité, c'est souvent des gens qui sortent des forces de sécurité. Parce que De Gaulle aussi, hein, par exemple, De Gaulle, c'était un officier de la 3e et qui ensuite, voilà. Donc ça peut être ça. Je corrige ce que j'ai dit sur Cromwell, ça, parce que Cromwell, justement, c'était pas son cas. Cromwell, il faisait partie de la petite noblesse, effectivement, de l'ancien régime. Enfin, il n'avait pas de, je dis, c'était un gentleman farmer, en fait. Et ses premières actions militaires ont eu lieu pendant la Révolution. Où là, il s'est transformé en militaire, si vous voulez. Donc c'était un vrai soldat de la main gauche. Donc c'est pas forcé, mais effectivement souvent c'est des gens qui ont ce profil-là. Alors un ancien de LR, donc pas forcément, ça peut être des gens tout simplement qui aujourd'hui sont dans l'armée, dans la police ou dans l'administration. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est probablement des gens qui appartiennent à la classe des wannabe élites aujourd'hui. Zorgi 81, si Macron démissionne. Ah oui, alors si Macron démissionne, serait-il alors présidentiable lors de la prochaine élection? Alors, je crois que d'après le texte, non, même s'il démissionne, il ne peut pas être élu une troisième fois, hein, d'après la façon dont c'est rédigé, me semble-t-il, depuis qu'on a limité à deux mandats sous Sarkozy. Et puis, de toute façon, il est cramé, il est complètement cramé. Plus personne ne l'aime, même les boomers ne l'aiment pas parce qu'ils ont le sentiment qu'il n'a pas su. Donc, il reste un carré, sans doute, un dernier carré de gens. Mais en plus, il faut bien se rendre compte que de la part de ses derniers soutiens, c'est-à-dire probablement les 15% de gens qu'il soutient encore, s'il démissionne, il perd cela aussi. Donc, il n'y aura vraiment plus personne, d'après moi. Hein, parce qu'ils estimeront qu'il les a lâchés. Donc, non, présidentiable après, je ne pense pas. BCHBC, l'article 16 est une hypothèse envisagée. Ben, c'est une hypothèse, oui, mais lancer un article 16 quand vous avez déjà une bonne partie, et je pense que ça va s'accroître, une bonne partie de la classe politique qui vous appelle à démissionner, parce que même s'il décide la dissolution demain, il décide la dissolution qu'une partie des partis veulent. Il restera qu'il sera celui qui. Alors, encore une fois, hein, moi, je n'ai pas la même lecture que tout le monde. Pour le coup, la première dissolution, c'est probablement ce que je lui reproche le moins, puisque il a fait qu'anticiper quelque chose qu'il aurait sans doute dû faire. Puisqu'encore une fois, je le répète, Gérard Larcher avait annoncé que LR se joindrait à la motion de censure à l'automne. Ça voulait dire que le gouvernement tomberait, donc la première motion de censure en 60 ans aurait eu lieu de toute façon à peu près au moment où Barnier a été censuré, peut-être un peu avant. Et donc à ce moment-là, probablement qu'il aurait dissous. En tout cas, les gens auraient compris qu'il dissolva à cette date-là, parce que ça aurait été un gros choc. Donc on lui reproche d'avoir anticipé, parce que les gens font comme si il n'y aurait pas une motion de censure sans ça, alors qu'il y en aurait eu clairement une. C'était quasiment évident sur le budget, d'ailleurs, hein, sur le budget, c'était ce qu'avait annoncé Larcher. Donc on lui reproche aujourd'hui, malgré tout, hein, les gens lui reprochent la première dissolution, lui reprochent le chaos. Alors le chaos, de toute façon, partie dû à lui, hein, parce qu'effectivement, malgré tout, s'il se serait fait censurer, de toute façon, c'est précisément parce qu'ils avaient merdé pendant toute sa présidence. Ils vont lui reprocher en plus d'avoir été celui qui n'a pas su éviter d'avoir une deuxième dissolution en un an. Donc, de toute façon, il sera encore considéré comme devant démissionner, je pense. Surtout maintenant qu'un tas de gens se sont déclarés, et encore une fois, vous me parlez du problème d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui veut sa peau maintenant parce qu'il a peur de perdre la mairie du Havre au printemps prochain. Son problème ne sera pas résolu par la dissolution. Il aura toujours besoin de faire dégager Macron le plus vite possible. Donc au contraire, il fera flèche de tout bois pour essayer de le faire sauter. Si lui fait flèche de tout bois, ça veut dire que tous les gens d'horizon, et ça fait quand même des gens qui ont un certain poids, hein, en tout cas comme ancien macroniste, je le disais tout à l'heure, Béchu, Loiseau, etc. Et un tas d'autres, parce qu'Attal aussi a intérêt à ça. Attal n'attend que ça, que Macron démissionne. Donc il veut pas trop faire le salaud publiquement. En appelant trop Philippe égalité, en appelant à la mort du roi, mais n'empêche qu'il fera tout pour faire en sorte que ça suive cette pente-là. Donc, à mon avis, la dissolution, en plus, à ce stade-là, quand je vois ce qui s'est passé aujourd'hui, ça ne le sauvera pas, de toute façon, et ça ne le sauvera pas longtemps. Donc, dans ces conditions-là, si vous voulez, avant ça, l'année dernière et tout, un article 16, c'était envisageable. Là, aujourd'hui, alors il peut le tenter, mais pour moi, aujourd'hui, l'article 16, il se fait sortir de l'Élysée à coup de plombe dans le cul. Parce que ça veut dire invocation à l'article 16, parce qu'on cherche à le faire démissionner. Là, c'est Crusader King 3, ceci est un acte de tyrannie, vous prenez un modificateur moins 50 d'opinion chez tout le monde, c'est terminé, quoi. Donc, à mon avis, il n'a pas l'assise politique pour se permettre ça, clairement. Mitch, un éclatement monétaire de l'euro, initié par une dette française non monétisable, peut-il précéder une crise institutionnelle de l'UE ? Je ne pense pas qu'il y aurait un éclatement monétaire de l'euro. Je pense que la révolution à l'échelle européenne pourrait justement se transmettre via la tentative européenne de sauver l'euro dans le cadre d'une faillite française. C'est-à-dire avec l'idée qu'en gros, il va falloir payer pour la France d'une manière ou d'une autre, en mutualisant rapidement les dettes, en faisant des eurobonds précipitamment, donc en faisant payer les Allemands vont gueuler, etc. Je vois plutôt quelque chose comme ça qu'un éclatement de l'euro qui précéderait la crise institutionnelle de l'UE, à mon avis. Le risque d'éclatement de l'euro peut précéder la crise institutionnelle de l'UE et la provoquer, mais je ne pense pas qu'il y ait un éclatement direct. Alors, peut-être qu'il y aurait des mécanismes économiques qui me donneraient tort, mais je le verrais plutôt dans cet ordre-là. Voilà. Tout d'un coup, effectivement, la France qui est quasi au bord du défaut, vite pour sauver l'euro, il faut trouver quelque chose, mais c'est quelque chose qui implique une espèce de fédéralisation accrue du pouvoir en même temps. Et tout ça dans un contexte où von der Leyen, le leadership de von der Leyen est contesté, et donc où là, vous pouvez avoir des gens qui se disent « on ne peut pas le faire avec le leadership von der Leyen, il faut créer un autre leadership », et là, des choses qui s'emballent, et la courroie de transmission pourrait prendre éventuellement cette forme-là. Florian Borelis, merci pour le don. Pensez-vous qu'il y aura de nouveau une alliance de circonstances de toute la gauche ? Que pensez-vous de la réunion de Marine Tondelier avec EDFI ? Moi, je pense qu'on sous-estime toujours la capacité de la gauche de s'unir pour essayer de prendre le pouvoir. La gauche ne sait sans doute rien mieux faire que s'unir pour essayer de prendre le pouvoir. Après, elle a tendance à éclater et à s'entre-dévorer une fois qu'elle a réussi à le prendre. Mais pour le prendre, justement, pour s'emparer du pouvoir... et surtout parce qu'ils ont toujours, vous savez, c'est la gauche, alors ils sont toujours persuadés que le fascisme est aux portes et qu'ils risquent de se faire bouffer. Y a une paranoïa dans la gauche et qui est liée aussi à l'incapacité de la gauche, mais ça a été étudié par des... Il y a des études, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Jonathan Haidt, un truc comme ça, qui ont fait des études et qui ont montré que les gens de gauche sont beaucoup moins capables de modéliser les comportements des gens de droite. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un de droite ce que pense quelqu'un de gauche, les gens de droite sont, mais d'une manière totalement disproportionnée, beaucoup plus capables de vous décrire la façon dont raisonnerait sur une question une personne de gauche, c'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un de gauche, alors que les gens de gauche sont très très peu capables de faire la même chose en se mettant véritablement à la place de quelqu'un de droite. Ils sont systématiquement dans la caricature, et ce qui est une des choses qui explique d'ailleurs le sens du mouvement Sinistro Gir, puisque par définition, c'est toujours celui qui peut se mettre à la place de l'autre qui cède. Parce que c'est celui, à partir du moment où vous en avez un des deux qui est capable de reconnaître la légitimité des demandes de l'autre, c'est celui-ci qui va avoir tendance à reculer, à accepter, alors que l'autre, lui, sera systématiquement intransigeant, ce qu'on voit habituellement. Bon. Et donc, comme il y a cette peur, là, cette paranoïa consubstantielle à la gauche, dès qu'il y a une élection et qu'ils se sentent menacés, ils s'unissent, ne serait-ce qu'en mode forteresse assiégée, par peur de se faire bouffer. Et donc ils arrivent à s'unir. Et c'est déjà là-dessus que Emmanuel Macron s'est trompé. Les mecs peuvent s'être insultés pendant 6 mois pour les européennes, parce que pour les européennes, il n'y avait pas vraiment de danger, en fait. Donc, ils étaient divisés. Mais là, tout de suite, il y a une dissolution. Ils s'unissent, le NFP. Et là, je pense qu'ils vont s'unir aussi de la même manière. Je veux dire, c'est pour moi, c'est comme ça que ça fonctionnera. Donc, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a un danger, parce que la gauche arrive toujours à avoir une espèce de mécanisme comme ça, parce que ce qui est vrai des forces politiques de gauche est vrai aussi de la population de gauche, qui du coup se mobilise beaucoup plus facilement, je pense, dans des élections comme ça. Anto L, merci pour le don. Après la suspension de la réforme des retraites, Macron va-t-il enfiler un gilet jaune comme Louis XVI enfile un bonnet phrygien ? Il pourrait essayer. Ça, d'ailleurs, c'est un petit peu dans le mouvement. Hein. Et simplement, si vous commencez à lâcher, à ce moment-là, vous vous faites complètement bouffer à la fin. L'autre solution étant de refuser totalement de lâcher, comme a fait Charles Ier en Angleterre, et vous vous faites totalement bouffer à la fin de toute façon, parce que c'est le principe de la Révolution nationale, ça ne va que dans un sens, n'est-ce pas ? Même quand vous arrivez à tenir pendant 10 ans, pendant 13 ans même, comme... pendant 14 ans d'ailleurs, comme Bachar al-Assad, à la fin, quand ça veut pas, quoi. Vous vous faites quand même dégager. Dave, quel est le meilleur scénario en France pour l'escalade de Poutine à venir? Ben, le meilleur scénario, ça serait que les Russes se vautrent dans les pays baltes, en fait, et que les forces de l'OTAN suffisent à leur mettre une branlée. Le meilleur scénario, c'est celui de l'avancée minimale de la Russie. Parce que tout le reste, ça va nous demander de nous engager dans la guerre. Et malgré tout, même si la guerre, ça peut avoir des intérêts stratégiques pour l'influence française en Europe, c'est quand même toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de hasard. Ça crée de l'instabilité, ça risque de faire une révolution chez nous qui est encore plus sanglante qu'elle ne serait dans la paix, parce que dans la paix, vous pouvez avoir un pouvoir qui reprend la force vite. Quand vous êtes le théâtre d'une guerre par proxy entre plusieurs puissances, les choses risquent d'être beaucoup plus compliquées, beaucoup plus sanglantes, hein, comme faire l'Espagne des années 30. Donc, à mon avis, le meilleur scénario, c'est le meilleur scénario pour tout le monde, c'est-à-dire celui où les Russes se vautrent dès le début. Julien Perrault, la chute de Macron pourrait-elle ouvrir la voie à une décentralisation politique et faire de celle-ci un véritable catalyseur de l'innovation en France-Europe? Ben, je pense que ça ferait partie de la recomposition générale de l'ordre politique de toute façon. Je pense qu'on verrait une forme de rationalisation aussi à l'échelle européenne à ce moment-là, peut-être basée sur le système des régions, etc. Notamment, c'est une des choses pour lesquelles je plaide moi. Je pense que pour avoir une démocratie libérale fonctionnelle à l'échelle européenne, il faut avoir un Sénat européen. Et pour avoir un Sénat européen, il faut avoir des entités régionales sur lesquelles le Sénat puisse s'appuyer. Et qui ne soient pas juste les États-nations, parce que sinon, ça reste trop accroché à d'autres entités. Donc ça pourrait ouvrir tout à fait la voie à ça, non seulement en France, mais aussi en Europe. Bon, il y a d'autres pays qui sont déjà décentralisés, hein, en Europe, donc c'est moins le problème. Je pense, oui, que de toute façon, la plupart des changements de structure qui vont se produire, comme d'habitude, devraient avoir, en tout cas à terme, un effet catalyseur de l'innovation. Après, il y a toujours la question de savoir quel sera véritablement l'état de l'Europe au sortir de la confrontation mondiale et quel sera le degré de la domination américaine. Axel, vous disiez hier la crise financière après la Révolution nationale pourrait durer 8-9 ans, mais n'y est-on pas déjà avec la Révolution nationale avortée de 2010? On n'a pas fait faillite, hein. On n'a pas fait faillite, on a pu continuer à s'endetter à pas cher, donc non, je pense pas qu'on y soit. On y est peut-être. Alors, après, ça dépend, il faudrait peut-être faire une analyse économique. On y est peut-être dans la mesure où, si on considère que, je sais pas, le PIB marchand est en récession en réalité depuis X années, et que ce qui a augmenté, c'est aussi le PIB non marchand, financé par la dette, etc. À ce moment-là, peut-être, oui, mais je ne suis pas assez compétent économiquement et j'ai pas assez étudié la question pour l'affirmer. Kevin Dacier, est-ce qu'en post-impérialisme revanchard, le système politique français pourrait s'aligner sur des régimes type Trump, Poutine, etc., plutôt que les démocraties parlementaires qui pèsent moins dans le monde. Alors Poutine ne sera plus là, désolé de le dire. A priori, on aura une transition parlementaire en Russie qui devrait fonctionner. Le système politique français s'aligner sur des régimes type Trump. Alors là encore, tout dépendra du type et de la réalité de la domination américaine en Europe dans l'après. Si c'est purement le mouvement endogène européen, normalement non. Ça serait évolution. Alors après, il y a toujours d'autres problèmes. C'est que si on a une révolution nationale qui commence à l'échelle européenne, on aura un impérialiste revanchard européen. Si l'impérialiste revanchard européen arrive à s'imposer, a priori, je sais pas, il pourrait conquérir la Russie, par exemple, un truc comme ça. Ce serait pas avant 2050, un truc comme ça, mais enfin, ça arriverait quand même. À ce moment-là, on repartirait probablement sur un nouvel ancien régime, c'est-à-dire une phase absolutiste, et ça peut durer après jusqu'à 2090, etc., et ça commence à faire loin. Soit ce qui pourrait se passer aussi, c'est que cet impérialiste revanchard là se heurte aux États-Unis, et à ce moment-là, bon, déjà, on aurait une guerre civile occidentale, c'est pas terrible, mais en plus. Si cette guerre est perdue, je ne suis pas sûr qu'elle déboucherait, comme doit le faire la chute d'un impérialiste revanchard, sur un régime parlementaire, parce qu'à ce moment-là, on deviendrait probablement une sorte de province d'un régime américain qui, lui, serait encore en phase autoritaire. Donc, est-ce qu'on ne se retrouverait pas avec des espèces de Quisling un peu partout aux ordres des États-Unis? C'est peut-être plus probable. Donc, voilà. Si c'est un mouvement endogène, non, mais vu les circonstances. Ça risque d'être dans cet ordre-là, oui. Agathe Battestini qui a envoyé 10 souscriptions en cadeau. Alors je la remercie beaucoup pour ce qui est pour nous un don, et vous pouvez la remercier aussi, vous tous qui les avez eus, puisque les souscriptions vous donnent accès à la totalité du catalogue des vidéos pour un mois. Donc vous pourrez voir si vous êtes content de l'avoir, et si vous ne pouvez plus, après vous en passer éventuellement et souscrire vous-même. Michael 747, est-ce que Philippe a un avis et pense potentiellement à un impact sur le monde et l'Europe suite à la présidentielle japonaise qui a déjoué le pronostic? Je pense pas que ça ait plus d'impact que Milei en Argentine, par exemple. Surtout que c'est le Japon, alors autant l'Argentine, on se reconnaît pas trop. Il y a quand même un côté alien au Japon, hein, ça, c'est-à-dire que je pense qu'en Occident, on voit toujours ça comme, très honnêtement, comme une civilisation extraterrestre. Le Japon, c'est des gens qui sont malgré tout pas tout à fait comme nous. Et c'est pour ça qu'on accepte de leur part tout un tas de comportements qui chez nous seraient vus comme horriblement fachos. Mais chez eux, bon, on trouve ça normal, ils sont comme ça, quoi. Il y a quand même un esprit comme ça qui date probablement pas d'aujourd'hui, qui date d'il y a longtemps. Donc je suis pas sûr que ça aura un gros impact. Ça paraîtra plutôt comme une curiosité locale, à mon avis. TH qui dit bonsoir à vous, fin de l'ambition européenne pour Macron en cas de démission de la présidence, et merci, alors merci de dire merci en cas de démission. Oui, je pense que de toute façon Macron est définitivement cramé pour à peu près tout. Faudra qu'il parte quelque part en exil, je pense, mais je vois pas ce qu'il pourra chercher derrière. Peut-être qu'il restera vivant, mais genre comme Gorbatchev, je sais pas. Matt Broshiker, merci pour le don. Bonsoir. Le Rassemblement National, s'il prend le pouvoir, ne va-t-il pas hériter d'une situation tellement compliquée qu'il va lui aussi collapser? La situation est tellement pourrie, de toute façon, que celui qui arrivera au pouvoir après, je pense pas qu'on pourra considérer qu'il en sera tenu comme responsable. Je veux dire, ça aura trop pourri avant, on aura trop parlé de faillite, pour que ceux qui arrivent... Si vous voulez, c'est gênant d'arriver quand vous savez que la situation est merdique, mais que c'est pas encore trop connu du public, et que si vous arrivez et que la crise éclate quand vous êtes là, ça risque de se voir. La crise a déjà éclaté en partie. Alors bien sûr, ce qui pourrait arriver après une arrivée du RN, c'est tout d'un coup la ruine financière, mais pour le coup, je pense pas que le Rassemblement National au pouvoir serait attaqué par les marchés, comme ça le serait si on avait un gouvernement de gauche. Surtout qu'au plan économique et surtout sous l'impulsion et autour de Jordan Bardella et l'influence que Ciotti a sur lui, il y a une approche qui est un peu plus libérale, plus compatible avec le patronat notamment, et donc voilà, ça me paraît plus compatible. Il y a une chose que j'ai oublié de dire d'ailleurs à propos de Macron et de sa démission, c'est qu'il y a Juan Branco, alors je ne sais pas s'il a relayé ou si c'est lui qui a lancé l'idée, mais d'une manif le 15 octobre prochain pour la démission d'Emmanuel Macron. C'est important, une manif à Paris. Donc ça veut dire que même si Emmanuel Macron a lancé la dissolution d'ici là, je pense que cette manifestation se tiendra. Et vous aurez un certain nombre d'hommes politiques déjà qui la verront sans doute d'un bon oeil. Donc on est encore sur autre chose de différent de ce qui s'est passé début septembre. Mike Roland, question. La Russie peut-elle prendre les Pays-Baltes sans une mobilisation même partielle? Je pense, mais je pense qu'il faudrait prélever quand même des gens sur le front ukrainien. Donc il faudrait un peu figer le front ukrainien pour arriver à ça. Après, toujours pareil, on peut être surpris, mais... Vu les pertes a priori qu'ont les Russes, je pense pas qu'ils aient des masses et des masses et des masses de réserves qui sont pas en Ukraine. Après, ils peuvent aussi décider de faire le truc complètement à flux tendu et de prendre des troupes qui serviraient à faire des rotations en Ukraine pour les envoyer sur les Pays-Baltes et en gros mettre tout le monde au combat en même temps. Après, c'est dangereux parce que ça veut dire que vous avez des endroits où vous pouvez plus faire de rotation. Donc c'est les troupes qui fatiguent, etc. Julian Loeb, est-ce qu'il y a une hypothèse où un roi peut revenir en France? J'y crois pas trop. Je pense qu'on s'est vraiment éloigné du truc, quoi, maintenant. Hein. Donc, sauf à ce que le pouvoir soit pris par une espèce de Franco qui voudra remettre un. Mais à à ce stade et dans l'immédiat, je vois pas trop. Surtout que la France, a priori, de plus en plus, va exister comme composante d'une entité européenne. Et dans ce cas-là, la monarchie, serait plus folklorique qu'autre chose. Donc là, sa restauration, je sais pas. Eritor Savonarola, Philippe disait il y a quelque temps qu'il était très optimiste, l'est-il toujours? Ouais, j'ai été très optimiste au lendemain de l'élection de Donald Trump parce que j'avais l'impression que tout irait bien, mais j'ai expliqué dans l'émission de Charlie Kirk que j'avais sans doute été trop optimiste déjà. Donc non, non, ça a été, j'ai eu une phase optimiste, mais en fait, vous savez, c'est le petit mème que je prends là, avec le bus qui se fait percuter par le train, où je mets sur le bus et cette fois-ci ça se passera peut-être mieux, et le train c'est le déterminisme historique. Ben, c'est ça quoi. Je pense que le déterminisme va rouler sur mon optimisme. Tenval, quelles sont les sorties possibles de la tripartition qui incarnera le directoire en France? Alors je ne comprends pas les sorties possibles de la tripartition. Comment on va? Alors peut-être la tripartition de l'Assemblée nationale. Alors le directoire, c'est quoi? Le directoire, c'est l'équivalent, si vous voulez faire un équivalent, c'est l'équivalent de Boris Yeltsin, hein, vieillissant et alcoolique, juste avant la prise du pouvoir par Poutine. Grosso modo, c'est ça le directoire. Ça peut être. Ça a été. Probablement, ça a été Porochenko dans le rôle en Ukraine. Les sorties possibles de la tripartition. Dans l'idéal, ça aurait été une vraie mutation parlementaire avec la mise en place de compromis, etc. Mais encore une fois, il y a une chose qu'on sait dans le processus de révolution nationale, c'est que l'expérience démocratique initiale échoue, en général. C'est pour ça qu'ensuite, on a un retour d'autoritarisme. Donc la solution possible de la tripartition, c'est probablement qu'au bout de quelques années. Alors c'est pas impossible que ça se passe bien pendant un moment, hein. Si vous prenez la République de Weimar, par exemple, après les 2-3 premières années très compliquées, tout d'un coup, vous avez une dizaine d'années qui se passent bien, surtout les 7 premières. Puis après, vous avez la crise de 29 et à nouveau, ça redégénère. Et pareil pour la 4e République, d'ailleurs, hein. Aussi. Dans la première moitié des années 50, c'est pas mal, hein. La croissance, ça repart, c'est le début des Trente Glorieuses, c'est la mise en place de tout ce qui restera comme les grandes réalisations de De Gaulle, alors qu'en réalité, souvent, ça a été semé pendant la 4e République. Donc, politiquement, les sorties de la possible de la tripartition, dans un premier temps, ça serait qu'elle soit mieux gérée, et dans un deuxième temps, c'est que ça pète, en général, c'est ça qui se passe. Dave encore, quel scénario parti est le plus profitable à Poutine? Peut-il ajuster le timing de son escalade en fonction de la situation politique en France? Je pense que le scénario parti le plus profitable à Poutine, c'est une victoire de la gauche. C'est une victoire de la gauche, une dette française qui est attaquée, qui n'arrive pas à financer son réarmement, qui plonge dans une espèce de guerre civile semi-larvée, qui nous rend totalement incapables de réagir et d'être leader. Dans la guerre à l'Est, ça c'est le plus favorable à Poutine. Le chaos, c'est ce qui est le plus favorable à Vladimir Poutine. Dael, vous pensez qu'une défaite russe se fera obligatoirement par une pénétration militaire du territoire russe par les Européens ou bien un échec russe dans la pénétration de l'Europe est suffisant? Moi, depuis le début, je pense qu'en général, l'impérialiste revanchard, son territoire, il est pénétré jusqu'au centre. La question qui se pose avec l'impérialiste revanchard russe, c'est qu'il a un stock de missiles nucléaires. Ce que je crois, et que je crois depuis dès que j'ai écrit Des Empires et des Hommes en 2009, c'est que cet obstacle sera contourné par la mise en place d'un bouclier antimissile américain efficace. Et je pense en l'occurrence que dans 4-5 ans, le Golden Dome de Donald Trump, vu l'avance qu'ont les Américains dans le retour de la conquête à l'espace, surtout la conquête massive avec SpaceX, fera que, grosso modo, la capacité de dissuasion nucléaire russe sera quasiment anéantie, et que donc il sera possible de pénétrer sur son territoire. Et il est déjà possible d'ailleurs à ce niveau-là de pénétrer sur son territoire. Je rappelle que les Ukrainiens ont pénétré solidement sur le territoire russe. Donc vous pouvez savoir ça par plusieurs endroits. Dans l'Atlas des guerres à venir, je parlais notamment de pénétration turque via le Caucase et d'agitation de minorités musulmanes sur le territoire russe. Florian Bourrelis, un homme issu de l'immigration peut-il être notre impérialiste revanchard? Et qu'est-ce que ça changerait historiquement? Ah, d'où la réflexion d'Iruma, Jean Messia, Issou. Un issu de l'immigration, Jean Messia. Ça pourrait être possible, parce que Napoléon était corse et Staline était géorgien et pas russe. Donc le fait d'avoir un immigré super patriote ou qui devient super patriote, parce que bon, Staline était un patriote soviétique, c'était pas véritablement un patriote russe, c'est tout à fait possible que ça arrive. Oui, c'est pas impossible en tout cas. Tenval, un impérialiste revanchard français ne chercherait-il pas à séparer la France de l'Europe? La France avec impérialiste revanchard pourrait-elle profiter d'une vichisation de l'Allemagne? Une France. Ben, le truc, c'est que l'impérialisme revanchard, il arrive un certain temps après le début de la Révolution, pas dès le début. Et donc, en profiter dès le début. Enfin, je veux dire, comme la vichisation va probablement être à peu près ou à quelques mois près concomitante avec le début de la Révolution nationale chez nous, ou ses développements. Ça paraît assez compliqué d'en profiter. Après, l'impérialiste revanchard chercherait plutôt surtout à contrôler une partie de l'Europe, à récupérer l'hégémonie en Europe qui a été perdue finalement dans les années 1990, alors que la France était la puissance dominante en Europe jusqu'à la veille de la chute du mur. Donc juste séparer la France de l'Europe, je ne crois pas. Ça serait plutôt. Moi, je pense qu'il y a un risque important qu'un impérialiste revanchard français devienne l'impérialiste revanchard européen, en fait. Norman Dallen, merci pour le don. Gérard Larcher va-t-il pouvoir récupérer le cuisinier ayant quitté le Sénat pour l'Élysée en 2021? C'est possible. J'espère qu'il est déjà sur le coup. Ça serait excellent dans le lore. Ça serait tout à fait excellent. D'ailleurs, c'est l'occasion de préciser, parce que du coup, j'ai des gens des fois qui me disaient « Alors, Gérard Larcher, etc. » Moi, je répète que Gérard Larcher, pour moi, quand je vous en avais parlé, c'était quoi? C'était l'année dernière, c'était quelques mois avant la dissolution. Et je vous avais dit que selon... Je crois que ça devait être en février-mars, un truc comme ça, ou début avril. Je vous avais dit que pour moi, Gérard Larcher, il aurait un rôle dans la chute du régime. Alors, à mon avis, il en aura un de toute façon si Emmanuel Macron démissionne, parce que Gérard Larcher deviendra président par intérim, hein, faut pas oublier ça. Hein. Si Emmanuel Macron démissionne, c'est Gérard Larcher qui est président par intérim. Mais de toute façon, c'est quand même lui qui a provoqué le début de toute la séquence qui aboutira à la démission de Macron, c'est-à-dire la dissolution, encore une fois, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est lui qui a décidé de lâcher Macron et donc d'une certaine manière le régime avec sa majorité au Sénat. Et avec LR qui représentait une partie importante de la majorité relative à l'Assemblée nationale, en voulant voter la motion de censure. Donc à mon avis, c'est assez important. Surtout que je pense que si y a un contentieux entre Gérard Larcher et le Conseil constitutionnel, je ne dirais pas que Gérard Larcher veut supprimer le Conseil constitutionnel, mais je pense qu'il a quand même un problème sur la façon dont le Conseil constitutionnel fonctionne, en particulier sur l'histoire des cavaliers législatifs et tout, qu'il n'a pas digéré à propos de son projet de loi immigration, parce que c'était en fait son projet qui avait fini par être voté, et qui avait été ensuite censuré, hein, la manœuvre, je rappelle, je ne refais pas le détail. Mais s'il y a des discussions sur une réforme à faire du régime pendant l'intérim de Larcher et dans la suite, je pense qu'il pèsera de tout son poids, sans mauvais jeu de mots, pour tenter de faire repenser ce qu'est le rôle du Conseil constitutionnel et ce qu'est le rôle du Parlement. Donc je pense qu'il aura quand même voilà, un rôle. Alors, je pense que le don méritait quand même, même si c'était une blague, d'étendre la question. Gustave, ouais, Marvin me demande quand est-ce qu'on stoppe les questions. Bon, dans 2 minutes, allez, vous avez jusqu'à 23h10 pour poser vos questions. Le contexte actuel peut-il favoriser un effondrement de l'UE ou la renforcer vers un État européen? Ben moi, je pense que ça va aller vers un État européen, a priori, même avec la guerre. Mais si on a un impérialiste revanchard européen, ça pourrait être, par exemple, si à la fin de la guerre, l'Europe, l'UE n'a plus les frontières qu'elle a actuellement, l'impérialiste revanchard européen consistera à essayer de reprendre ce qu'elle n'a pas actuellement, ce qu'elle aura perdu. Qu'est-ce que ça sera? Ça, j'en sais rien. Peut-être la France aussi. Si jamais la France devient indépendante, l'UE cherchera à récupérer la France. Auquel cas, on serait sur quelque chose de parallèle et d'assez proche de ce qui s'est passé pour la Ligue achéenne versus Sparte dans la Grèce antique. Alors, je pense que j'ai pas raté. Oui. Trader-cueilleur. C'est amusant. Merci pour la prise de question. Notre hôte peut-il clarifier la position du MEDEF face à une possible dissolution, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas s'ils ont une position exactement. Ce que je sais, c'est qu'ils avaient prévu leur manifestation là, parce qu'ils n'étaient pas contents contre les projets de taxes, pour le 13 octobre, et qu'ils ont décidé finalement d'annuler ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne voulaient pas rajouter du désordre au désordre, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils aient donné une position sur la dissolution. En tout cas, moi, je n'ai rien vu. Tenval, le Rassemblement national peut-il réussir à s'imposer ou est-ce qu'il y aura un chaos interminable? Peuvent-ils réorganiser l'ordre social? Moi, je pense qu'il y aura une réorganisation de l'ordre social et structurel. Le Rassemblement national, probablement d'autres. Après, de toute façon, il y aura peut-être une recomposition. C'est pas impossible que le Rassemblement national lui-même éclate entre la partie ancienne du Rassemblement national et la partie nouvelle, celle qui s'est beaucoup peuplée, celle des actifs qui sont arrivés en masse depuis les derniers scrutins, et qui, eux, n'ont pas vraiment les mêmes soucis et les mêmes approches que l'électorat, on va dire, historique du Rassemblement national. Et d'autant plus que, comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il va y avoir un basculement. Avec un centre qui va devenir de plus en plus par clientélisme, ayant perdu les boomers, qui risquent d'aller de plus en plus vers la réaction, puisque je pense que leurs retraites vont baisser, et donc qui deviendront le nouvel électorat naturel de l'extrême droite, donc du Rassemblement national, ou en tout cas de la partie la plus à droite du Rassemblement national, une fois qu'il aura scindé en deux, et que pour le reste, on aura une recomposition, direction centre-droit, pour les Nicolas qui deviendront, ou en tout cas les Nicolas, c'est disons la classe, la catégorie des actifs qui deviendront le nouveau socle du régime. Et donc je pense qu'on va avoir, un jeu comme ça. Voilà. Je pense pas que le Rassemblement national va devenir un parti qui durera pendant des décennies. Florian Borélis, Mélenchon peut-il être notre Lénine et quelles conséquences pour la Révolution? Oui, en tout cas, il se rêve en Lénine, lui. Mais le truc, c'est que. Il peut prendre le pouvoir par un coup d'État, mais. Les particularités, quand même, c'est que la France n'est qu'un pays au sein de l'Union européenne. Et je pense qu'il aurait du mal à étendre son mouvement à l'extérieur. Et qu'une bonne partie des pays européens sont assez forts pour soutenir le parti qui chercherait à réprimer ce révolutionnaire Mélenchon, à mon avis. Bill Geoffroy, au niveau européen, ça serait pas plutôt un impérialisme initial? Non, l'impérialisme initial, pour moi, l'impérialisme initial européen, pour moi, il démarre avec la chute de l'URSS et avec l'extension progressive jusqu'en 2004 de l'Union européenne à l'Est. En commençant par la reconquête comment ça s'appelle, de l'Allemagne de l'Est. Florian Borélis encore, dans le clivage politique russe, Boris Yeltsin était de gauche, oui, évidemment, puisque c'était un russe qui était pour le progrès, il était soutenu, puis surtout, il faut regarder qui le soutenait, il était soutenu par toute la jeunesse qui était occidentaliste et hostile à l'ordre en place du Parti communiste. Donc oui, localement, c'était une figure qui était considérée comme plus libérale et donc de gauche, progressiste. NP, comment une aussi grande partie de la population peut-elle être débile au point de vouloir confier le pays à la gauche LFI? Bon, c'est pas une question de débilité, il y a aussi une question, ce sont des gens qui ont des préoccupations qui sont légitimes et qui, de leur point de vue, encore une fois, si on parle de la classe des nouveaux exclus, c'est normal qu'ils raisonnent comme ils raisonnent. C'est même classique, voilà, c'est mécanique. Donc ça n'est pas choquant, c'est pas de la débilité. On peut quand même prendre de la hauteur et sortir de ça pour considérer ça de manière rationnelle et voir que les gens ont leurs raisons, voilà. Qui sont peut-être pas les siennes, qui sont peut-être pas à la même échelle de valeur, mais c'est ainsi. Dael, croyez-vous que dans le processus révolutionnaire européen, il pourrait y avoir des confrontations mineures ou éclairs entre pays européens, justement avec les pays les plus stables, dernier statu quo? Alors oui, mais je dirais plutôt, à ce moment-là, éventuellement entre des groupes de pays qui seraient tenus par des gens qui ont une vision différente de l'Europe. Donc ça serait quand même plutôt, malgré tout, une guerre civile européenne. Ça ne serait pas des conflits interétatiques à l'intérieur de l'Europe. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait l'analyser, d'après moi. Et pour terminer, on termine avec la question de Mitch. Si des têtes tombent, comme à la Révolution, quelle est la première ligne parmi les grands noms? Hors Macron, Fabius au Conseil constitutionnel, Kohler, Lagarde. Je tiens à ma chaîne, donc je ne sais pas si je vais partir trop là-dedans. Mais il y aura peut-être des poursuites. Oui, ça, il y aura peut-être des poursuites ou des gens disons qui partiront en exil, peut-être. Ça, c'est pas impossible. Ferrand, je verrai Ferrand peut-être partir. Fabius, il est déjà plus, donc difficile. Mais des gens comme Ferrand, Moscovici, des gens comme ça, c'est pas impossible. Anne Hidalgo. Voilà. Je vais faire quand même un petit tour pour essayer de vérifier si on a eu des choses sur Tipeee, parce que c'est pas impossible. Je vous rappelle, alors j'ai pas vérifié, je ne sais même pas combien vous êtes. Vous êtes à peu près 1000 encore, c'est sympa d'être toujours là. N'hésitez pas de mettre des pouces bleus, enfin des pouces vers le haut. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien il y en a, je vais rafraîchir pour regarder. On a 428, c'est bien, mais il faudrait dépasser les 1000 quand même, je pense que ça serait pas mal. Donc, alors qu'est-ce que je voulais regarder moi? Je voulais regarder ici si j'ai raté des. Zut. Si j'ai raté des. J'ai raté des arrivées de membres. Pendant ce temps, est-ce qu'on a eu des petites infos dans le canal Hiruma, je suppose que tu as suivi le canal ou les autres? Est-ce qu'on a vu passer des actualités que j'aurais manquées? En général, là-dessus, les infos ne sortent plus trop, mais bon, à cette heure-ci. Mais est-ce qu'il y a eu des choses qui sont sorties? N'hésitez pas à vous abonner aussi hein, si vous découvrez la chaîne avec ça, mais bon, j'ai l'impression que ces soirs-ci, c'est surtout des abonnés habituels qui reviennent peut-être, alors qu'ils ne sont pas là tout le temps, mais qui, sentant l'odeur de l'actualité, se présentent ici. Alors, nous avons eu un type généreux de Loïc. Qui a dit notamment, j'aimerais bien avoir accès à vos vidéos. J'avais fait un versement il y a quelques années, mais sans suite. Alors c'est possible. Si c'est pour les vidéos sur YouTube, c'est le premier palier sur YouTube qu'il faut prendre. C'est pas sur Tipeee qu'il faut venir faire un don parce que via Tipeee on n'a pas moyen de faire cet accès-là. On a ensuite un tweet, un type de Edouard qui dit continue à faire ce que tu fais, contenu au top, c'est très gentil, merci. Et un type de Samuel qui ne dit rien, mais qui nous met un type récurrent en plus, donc qui a priori va nous soutenir dans la durée. C'est ce qui est le mieux, c'est ce qui nous permet d'avoir de la visibilité et de faire des projets. Et au niveau des souscriptions, nous avons des gens qui nous ont rejoints. Nous avons Sifé ou Saifi, Saïfé, je ne sais pas comment ça se prononce. Red Lust, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons Chris 91 aussi qui nous a rejoint dans la journée ou hier. Alexandre Bourgeois aussi. Ça, me-t-il ? Ah non, Alexandre Bourgeois, c'est un réabonnement. Non, c'est Chris 91 et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup et merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. On sent que le travail est reconnu. Donc, c'est fort aimable à vous. Pour conclure, bah écoutez, on continue dans le mouvement. Hein, les choses sont les choses. Je pense qu'on est en bonne voie pour avoir une démission d'Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent. Peut-être les mois. Il faudrait que les choses se calment soudainement. Mais comme j'ai dit, maintenant, il commence à y avoir des gens qui ont quand même un solide intérêt à ce qui dégage. On a une très grosse majorité de gens qui le pensent. On a des manifestations qui sont prévues pour... Donc voilà, à voir si cet élan peut s'essouffler, mais dans le contexte, alors qu'on risque d'avoir une dissolution, est-ce que la dissolution suffirait à essouffler ça, alors que la dernière fois, c'est après la première dissolution que les gens ont commencé à douter de la capacité et de la nécessité d'Emmanuel Macron pour rester. Il ne faut pas oublier que l'état actuel de la crise, l'étape particulière maintenant de la crise, c'est lié à un retour assez absurde d'absolutisme présidentiel d'Emmanuel Macron qui a d'abord imposé le cornu et ensuite, vraisemble-t-il, en plus imposé Bruno Le Maire hein, puisqu'il se dit que c'était notamment pour essayer de faire avancer le projet de défense européenne dont il espère que ça sera son legs probablement pour servir ses ambitions européennes ensuite. Auquel cas, très très mauvais calcul d'avoir fait ça. Enfin, faut vraiment être déconnecté pour avoir pensé que Bruno Le Maire pourrait aider là-dedans. En tout cas, ne serait-ce qu'un gouvernement pourrait survivre avec Bruno Le Maire dedans. Donc on est sur du classique. Hein. On est encore une fois, est en train de se produire en France une révolution nationale pour les raisons classiques des révolutions nationales. Et on est en plein dans le modèle. Alors, toujours pareil, ça ne permet pas de prévoir toute la contingence, mais ça donne un cap, et ce cap, très clairement, on le suit, et il ne continue pas, on va dire, à s'éloigner au fur et à mesure où on s'en approche. Hein. On en est clairement plus près qu'on en était il y a un an, de la même manière qu'on a été nettement plus éloigné il y a un an qu'il y a deux ans. Nettement plus près, disons, pardon, il y a un an qu'il y a deux ans. Et les choses ont tendance à accélérer. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler à nouveau demain soir. Sauf à ce que finalement il ne soit passé rien et qu'il annonce qu'il parlera jeudi, par exemple. Auquel cas peut-être on fera l'émission que jeudi. Mais de toute façon, alors je pense, je l'ai annoncé sur le Telegram déjà, je pense qu'il n'y aura pas de bulletin cette semaine, parce que le gros de l'actualité, de toute façon, c'est l'actualité française, et comme j'y consacre énormément de temps pour suivre, je ne peux pas tout faire, encore une fois. Donc, priorité au direct, hein, comme on dit, sur une grande chaîne information. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, et vous laissez pas faire. Donc désolé, donc hop, je disais je reviens, je rassure, je n'ai dit que ça parce que j'attendais de voir vos réactions dans le chat. Je reviens parce que j'ai vu Iruma qui m'a dit regarde les MP en panique pendant le générique. Donc je reviens, me revoilà. Puisque d'après, alors il m'a envoyé ça, Eurointel, donc c'est un canal Telegram d'information. Emmanuel Macron envisage de démissionner de son poste de président, mais seulement s'il reçoit des garanties des autres dirigeants de l'UE qu'il sera le prochain président de la Commission européenne. Dans ce cas, Ursula von der Leyen sera définitivement remplacée une fois cet accord conclu. Alors, j'avais pas lu l'actualité entière, j'avais vu que le début. La totalité de l'actualité lue, ça me paraît quand même gros, là. Ça me paraît fantasmatique, quand même. Y a plus de son ? Y a toujours pas de son ? Attendez. Je vais essayer de voir mon retour. Si, le son, il y est maintenant. Le son, il y est. Non, non. Parce que je l'entends, moi, sur mon retour YouTube, donc le son, il est. Le son, il y est. Ne me dites pas que le son, il n'y est pas. Iruma, est-ce que le son, il y est? Qu'est-ce qu'il va me dire, Iruma? Si, c'est bon. Ah, voilà, vous avez tout entendu. D'accord, très bien. Donc, ouais, ça me paraît un peu gros comme truc. Des garanties des autres dirigeants de l'UE. Alors, cela dit, ça, encore une fois, c'est son rêve sans doute de faire ça. Donc d'une certaine manière, je veux dire, allez, réfléchissons deux secondes. Mettons-nous à sa place. Le mec sait que s'il démissionne, comme ça, il est finito pipo. Ce que je disais à l'instant, que personne ne voudrait plus de lui nulle part, etc. Donc, on se met à sa place. Le mec, il imagine qu'il a un destin dantesque depuis qu'il a été élu il y a 8 ans. Il ne peut pas laisser tomber ça. Donc, si je réfléchis comme ça, c'est pas absurde qu'un mec comme ça... Mais si vous voulez, c'est tellement illusoire. Je suis tellement choqué que j'allais vous dire le mot en anglais, delusional. C'est tellement illusoire de s'imaginer qu'on puisse lui offrir quelque chose comme ça. C'est dingue de le proposer. Mais en même temps, le mec doit être dans une telle situation de détresse psychologique à ce stade, très honnêtement, que ça serait logique qu'il le propose, alors que c'est dingue de le proposer. Donc c'est peut-être pas absurde comme proposition, mais surtout que les mecs vont lui dire mais non, mais en plus, enfin, je veux dire, le mec qui vient vous demander ça, vous lui dites mais jamais, quoi, jamais, mec, t'as vu dans quel état t'as mis la France, tu as démissionné, mais ta gueule démissionne, enfin, fous le camp, quoi. Et même, je vais dire, c'est pire, si véritablement il envisage ça et commence à contacter les dirigeants de l'UE, les mecs vont publiquement se prononcer pour qu'ils foutent le camp. Parce qu'ils vont se dire, c'est pas possible, le mec est totalement dingue. Alors, cela dit qu'en même temps, Ursula von der Leyen va probablement sauter dans le processus, de toute façon. Le truc... Non, ça, c'est inimaginable. Inimaginable que les dirigeants européens acceptent et fassent sauter von der Leyen pour y mettre Macron à la place. Non, ça, c'est... C'est juste pas... c'est pas possible. Ça serait vraiment de la science-fiction. Je n'y crois pas une seconde. Non, je pense qu'il se ferait juste dégager. C'est trop... Déjà, je pense qu'il y en a plein qui peuvent plus le blairer. Je pense que ça va être non, quoi. Après, à quel point c'est vrai ? Si ça se trouve, il a balancé ça à quelqu'un en disant « Moi, je voudrais bien démissionner, à limite, si on me donnait la garantie que je serais président de la commission. » Ça ne veut pas dire qu'il est allé plus loin. Mais voilà, est-ce qu'on a d'autres choses qui sont sorties un petit peu qui vont dans le même sens ? Est-ce qu'on a d'autres indiscrétions, d'autres infos ? Je ne sais pas. Doute. Voilà. Enfin, effectivement, ça aurait été dommage de ne pas aborder ceci en forme de petits. Du coup, on a perdu 300 personnes qui ont raté l'info. Hein. Comme quoi, il faut pas partir tout de suite au moment du générique. On ne sait jamais. Peut-être que je vais le faire, ça, maintenant. Savez, je vais faire des trucs comme ça. Vous ne saurez pas. C'est peut-être comme à la fin des Marvel où il y aura une autre info que je balance derrière comme ça. On pourra peut-être le faire. Mais, ouais. En tout cas, s'il envisage déjà à ce stade de démissionner, ce qui serait logique, parce que franchement, la pression... Enfin, aujourd'hui, quand Moi, j'ai été surpris quand même, pour revenir sur ce que je disais au début, j'ai été surpris de la vitesse à laquelle ça a délié l'angle, le truc d'Edouard Philippe. Moi, je me suis dit, oh, Edouard Philippe, il le dit, d'accord, bon, ça a l'air de tous les choquer qu'Edouard Philippe le dise, mais je pensais vraiment pas que les mecs attendaient ça et que ça délirait autant de langues, de gens. Parce que du coup, c'est devenu une actualité, à tout le monde on a posé la question, et à partir du moment où vous posez la question, c'est déjà un peu y répondre. À partir du moment où vous posez la question aux gens, est-ce que vous pensez que le président devrait démissionner, ben vous avez de plus en plus de gens qui disent oui, quoi. Et donc on est là. Donc si ça se trouve, si ça se trouve, ça va aller plus vite qu'on ne pensait. Voilà. Mais peut-être pas. De toute façon, il reste que toute la pression qu'il y a sur lui, elle est réelle. Et elle va continuer à s'exercer. Voilà, prochaine émission que je ferai, si c'est demain soir notamment, je pense que je la referai directement depuis mon PC, parce qu'après depuis le PC portable, parce qu'a priori ça a bien marché, alors que sur le, ou alors je ferai des tests avant, mais, pour pas que ça ressaute, parce que c'est un peu pénible. Alors je vois, ah, Iruma, ça y est. Alors maintenant Iruma, il m'envoie d'autres actus, on va rester jusqu'au bout de la nuit. Sébastien, alors sur, de Guillaume Daré, sur, c'est qui déjà lui? Ah oui, c'est le journaliste ouais, sur BFMT. Sébastien Lecornu a expliqué à Laurent Wauquiez que si LR quitte le socle commun, il a deux options, soit un Premier ministre de gauche, soit la dissolution. C'est ce que Wauquiez aurait dit aux députés LR. Mais ça, si ça se trouve, ça faisait partie de ce qui a été dit dans la journée, avec l'idée que Macron essayait de faire pression sur les LR pour les faire revenir. En disant qu'il mettrait un Premier ministre de gauche, mais qu'il ne voulait pas le mettre. Mais de toute façon, il mettra probablement la démission. Géoff, merci pour le don. Audica, partenaire du générique de l'émission. peut-être que le son du générique est un peu fort, mais je ne sais pas comment le, comment le gérer ça. Bref, voilà. Alors écoutez, je pense que ça y est, cette fois-ci, on a fait le tour. Donc je vous dis ah même Alain Menck m'a-t-on envoyé même Alain Menck mais ça il l'avait dit il y a longtemps non? Il me semblait qu'il l'avait dit déjà l'an dernier mais il recommence du coup ouais, il est sur le même truc. Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République et j'ose espérer qu'il n'en est pas le fossoyeur. Mais si Alain, mais si, c'est finito la République, la Ve République. Dis-lui au revoir, faut lui dire au revoir maintenant. Allez. Vous laissez pas faire. Et bouchez-vous les oreilles si le générique est trop fort chez vous.